Bonjour à tous. J'ai le grand plaisir d'accueillir Agnès Bâton, qui est formatrice à l'université de Cergy-Pontoise, au site SP de Cergy, qui est membre de la Copyrelem et qui surtout a une longue pratique de travail avec les équipes pédagogiques, les IEN, les CPC, et également de travail avec les équipes d'école. Elle va nous parler de la découverte des nombres et de leurs utilisations et des interactions croisées ATSEM enseignants dans ce cadre-là. À toi.
Merci Evelyne. Bonjour à tous, donc je suis Agnès Bâton. La Copyrelem, pour ceux qui auraient un oubli, c'est la commission des IREM, Institut pour la recherche sur l'enseignement des mathématiques, du côté élémentaire. Donc nous avons des travaux dont je vous parlerai à la fin. Nous travaillons sur plusieurs domaines. Et j'ai été aussi amenée à travailler avec les équipes de l'IFE. Donc je remercie les collègues, notamment du groupe départemental 95, maths et maternelle, puisque c'est un vrai bonheur partagé de travailler ensemble avec les équipes et à la construction d'outils pour les enseignants. Je remercie aussi Elisabeth qui m'a prêté sa voix, que vous entendrez de temps en temps, qui est directrice de maternelle, Evelyne pour ses conseils et Rémi Bricio pour m'avoir accueillie quand je suis arrivée à l'ESP de Cergy. Alors, relativement rapidement, puisque mon temps est plus que compté, j'ai bien compris. Donc éventuellement, à des moments, je passerai peut-être sur certaines diapositives, mais comme le diaporama sera à votre disposition après, vous pourrez donc revenir sur ce que je n'ai pu développer. Un plan qui va plutôt être une logique, en fait, après avoir rapidement regardé les orientations du BO de 2015, comme nous avons une formation mathématique avec ma collègue Elisabeth, on est parti sur les quatre principes qu'on a développés avec le groupe maternel 95 et notamment le jeu des variables qui va permettre de faire évoluer les élèves dans leurs compétences sur le nombre. Et en fait, c'est en suivant ce fil de la construction du nombre que je vous présenterai différentes situations, évidemment de manière non exhaustive. Et ces situations, avec soit des capsules audio, soit des capsules vidéo, nous permettront d'analyser le rôle des adultes, que ce soit du côté des ATSEM ou du côté des enseignants. Mais on pourrait aussi imaginer, bien sûr, qu'il faut interroger le rôle des AVS et des autres adultes intervenant dans la classe. Alors, sur les programmes de 2015, une vraie rupture annoncée dans ces programmes, notamment le travail sur la compréhension. Et du coup, un rapide extrait. L'école maternelle doit conduire progressivement chacun à comprendre que les nombres permettent à la fois d'exprimer des quantités, usage cardinal, d'exprimer un rang ou un positionnement dans une liste, usage ordinal. Cet apprentissage demande du temps et la confrontation à de nombreuses situations. Je me répète, mais je dois faire des choix. Et donc, l'ordinal va apparaître évidemment au fur et à mesure du discours, mais c'est vraiment sur l'aspect cardinal du nombre que nous avons choisi avec ma collègue de travailler, et avec le groupe aussi. Alors, si on regarde les attendus de la fin de l'école maternelle, on est en fait sur une explicitation, une référence en tout cas, aux travaux de Régine Doidy sur la dialectique outil-objet, c'est-à-dire un travail sur le nombre comme outil pour résoudre des problèmes, mais aussi en même temps, en dialectique, donc en aller-retour régulier, un travail sur le nombre comme objet de connaissance. Et donc en fait, les domaines numériques éventuellement même utilisés seront différents selon qu'on travaille sur l'outil ou sur l'objet. Alors, utiliser le nombre, disent les programmes, on est bien du côté du nombre-outil, et une liste de tâches est développée, vous connaissez les programmes bien mieux que moi, donc je vais aller assez rapidement là-dessus. Comparaison de collection d'objets, avec des procédures numériques ou non, réaliser une collection, utiliser le nombre pour exprimer la position, mobiliser des symboles analogiques, verbaux, écrits, conventionnels ou non, pour communiquer sur le nombre. On voit bien en fait ici que l'usage du nombre va faire partie, sur certaines tâches, de procédures dites numériques et qu'on aura sans doute des élèves qui vont utiliser des procédures qui seront premières, qui ne veut pas dire qu'elles seront non expertes à certains moments, mais qu'il va falloir diversifier. Et donc on est plus sur une diversification des procédures et une évolution vers la construction du nombre et de l'utilisation de ce nombre. Sur la deuxième partie, qui est du coup cette fois étudier les nombres, dit le programme, c'est-à-dire le travail sur le nombre objet. Il est bien entendu qu'ici, on a l'aspect ordinal qui rentre en jeu, sur lequel je ne m'étendrai pas. On a l'aspect cardinal, avec les propriétés de la cardinalité sur le fait que le nombre ne change pas si on bouge, change la nature et la taille des objets de la collection. Donc là, on est bien sûr des propriétés du nombre. Mais il y a une chose importante qui n'apparaissait pas aussi, de manière aussi flagrante dans les programmes précédents, c'est qu'on lit de manière très forte et très compréhensible, de manière très importante, l'aspect cardinal, l'aspect ordinal, c'est-à-dire qu'on ne se suffit plus d'une comptine numérique qui ressemblerait à une comptine alphabétique, qui n'aurait que, on va dire, l'oralité d'une ritournelle. On va fortement lier le fait que, à chaque fois qu'on dit un mot nombre nouveau, il correspond à l'ajout d'une unité de la sous-collection qui a déjà été constituée et qui a déjà été dénombrée. Et donc, c'est vraiment ce lien fort qui apparaît très clairement dans le deuxième item des programmes. Puis, quantifier, composer, décomposer. Des manipulations qui sont effectives, on le dit bien au début, puisqu'on est sur de la manipulation qui donne du sens, puis mentale, pour que, petit à petit, on amène l'élève à aller vers le concept. Parler les nombres à l'aide de leur décomposition, dire la suite des nombres, ici jusqu'à 30, hein, vous savez que c'est le minimum, que des élèves vont déjà bien plus loin, et puis lire les nombres écrits en chiffres jusqu'à 10, avec la difficulté du 10, qui fait apparaître du coup la numération, le début de la numération avec le 1 qui ne vaut pas 1 mais qui vaut 10. Et l'arrivée du 0 qui souvent n'est pas non plus, on va dire, rendu lisible et compréhensible en amont et qui peut pour certains élèves poser souci, en tout cas poser question. Je vais donc avancer sur les 4 principes que nous avons développés dans le groupe maternel Val d'Oise. Un premier principe qui est de s'approprier le nombre en termes de quantité. Donc c'est bien l'aspect cardinal sur lequel je vais insister tout au long de l'exposé. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, les contextes familiers qui entourent les élèves sont des contextes majoritairement ordinaux. Les numéros sur les touches de téléphone, sur les noms, sur les maisons, sur les ascenseurs, et donc dans ces cas-là, tout est ordinal. Alors évidemment, on peut penser, nous les adultes, à la partie cardinale de cette manière de faire les choses, mais pour les élèves, il n'en est pas question au début. Et donc, il est important de rentrer dans ce qui n'apparaît pas évident pour les élèves, c'est-à-dire qu'un même mot peut représenter une pluralité. Et donc, qu'est-ce que comprendre le nombre pour nous, en tout cas le nombre cardinal? Alors, c'est tout un tas de choses. Donc, je ne vais peut-être pas tout vous lire de cet extrait, mais on voit bien que, par exemple, pour comprendre 8, avoir conceptualisé ce nombre, évidemment, on sait bien qu'il ne suffit pas de savoir compter jusqu'à 8. Il ne suffit pas non plus de savoir que 8 correspond à la mesure de la quantité d'une collection composée de 8 objets. Il ne suffit pas non plus de savoir que c'est 5 et 3, que c'est le suivant de 7. Oui, le suivant de 7. Le précédent de 9. Mais il faut aussi que l'on puisse faire sentir, faire comprendre, faire apprendre aux élèves que ce 8 peut aussi correspondre à tout un tas de décompositions dont l'élève aura besoin de se saisir, notamment en cycle 2 sur le calcul, mais aussi dans d'autres situations qu'il faudra qu'il résolve. Et donc, effectivement, l'appel, soit par une représentation chiffrée ou analogique du nombre 8 ou par le mot nombre, doit permettre à l'élève d'avoir un certain nombre de réseaux en tête, d'images mentales, d'actions mentales, qui vont diversifier au maximum cette représentation du 8 pour qu'elle puisse être le plus facilement adaptable aux situations. Du coup, comment construire cet aspect cardinal du nombre, notamment par le parler et par le parler les décompositions. Et donc, si on veut composer, en tout cas en démarrant avec les petites sections, pour composer une collection de trois éléments, on va, nous les adultes, effectuer des groupements devant les élèves avec une gestuelle du groupement et dire on en a un et encore un, ça fait deux, et encore un, ça fait trois. Ou bien directement dire, tu vois, là, il y en a deux, et un, ça fait trois. Et du coup, on est sur une construction, étape par étape, du nombre quantité. Alors, là, c'est juste un extrait de 1943, qui dit, deux souris sont prises dans la souricière, une autre va se faire prendre, cela fait trois souris, deux souris et une souris font trois souris. Et vous voyez bien que, après cela, notre oral à nous doit aussi être quelque chose de généralisant, et donc on va lâcher les souris, et on va dire 2 et 1, ça fait 3. Donc vous voyez bien qu'on est d'abord sur le nombre 2, et puis après on est sur le nombre tout court, après avoir fait vivre tout un tas de situations avec l'élève où il aura des nombres 2, souris, nombre de points, nombre de tout un tas de choses. Le deuxième principe, c'est celui de la construction de représentation mentale. Alors, verbal, spatial, mobile, mais mobile dans le sens adaptable, flexible. Et du coup, on voit qu'une des variables, ça va être le type de matériel dont on va se saisir au démarrage, que l'on va proposer aux élèves, et évidemment le langage associé à ce type de matériel et à la manière dont on l'utilise. Donc évidemment, les doigts, les cubes, les alignements de points, des constellations. On reparlera de ces différentes manières de montrer et ces différentes manières de parler. Le troisième principe, ça va être de proposer d'autres tâches, en plus du dénombrement, puisque une des tâches pour lesquelles nous sommes nous les plus habitués par rapport à notre vécu d'élève, c'est de dire combien, de dénombrer. Et donc, il a été choisi de commencer, comme dans toutes les grandeurs et mesures, par la comparaison de deux collections, puisque en grandeur et mesure, la comparaison permet de donner du sens à la grandeur. Et donc nous, on va travailler avec des collections d'objets, donc ce sont des collections, et puis nous allons nous attacher à la grandeur qui est la quantité. Par la comparaison, nous allons donner du sens à cette grandeur, et puis après, petit à petit, au fur et à mesure que l'on en aura besoin, on va mesurer cette quantité à l'aide des nombres. Ensuite, deux tâches en parallèle qui se répondent l'une l'autre, c'est constituer une collection et dire combien, autant dire dénombrer, et puis composer, décomposer, compléter des collections qui sont vraiment des gestes fondamentaux pour préparer à l'école élémentaire. Quatrième principe, la mise en relation de différents contextes d'activités numériques, puisque c'est bien par le réseau de situations concordantes que le concept va se former, avec un rappel d'Hermel sur trois types de situations, des situations fonctionnelles, rituelles et des situations construites. Et donc je vais juste vous mettre un petit extrait.
Quand on fait des activités ritualisées, c'est bien que la SEM soit là. Elle va pouvoir observer aussi les enfants et relancer. T'as vu, lui, il participait pas. On ne peut pas toujours tout voir, mais elle observe aussi des séances avec l'ensemble de la classe. Elle peut aider un enfant, ou elle regarde, elle observe, et puis elle voit aussi comment fait l'enseignante. Les relances qu'elle peut donner, les termes qu'elle emploie, et du coup, s'en saisir après dans ce qu'elle va dire avec les enfants.
Et donc, on est bien sûr, en fait, des situations, l'enseignante l'a indiqué, ritualisées, c'est-à-dire qu'elles sont avec un format qui va permettre, une fois que le format est lancé par l'enseignante, d'être repris par les autres adultes, et notamment la TSEM, de manière à ce que, comme le format est classique et bien connu, la prise en main et la relance l'entraînement par la TSEM soit rendu tout à fait possible, facile et rapide. Mais pour cela, évidemment, il y a des gestes et du langage qui doit être partagé. Sur les situations fonctionnelles aussi, on est bien sur des situations qui peuvent être utiles ou plutôt rencontrées par les élèves au sein de la classe. Et là, les deux adultes seront présents pour répondre aux questionnements des élèves dans ces situations-là. Mais ce sont aussi des moments informels où, par exemple, l'ATSEM va emmener les élèves vers la cantine et leur demander de se ranger deux par deux. Ce qui, en tout début de petite section, est tout à fait improbable, puisqu'ils ne savent pas ce que c'est que deux, et se ranger non plus. Et donc, on voit bien que ça aussi, si c'est partagé avec l'ATSEM, eh bien, on va avoir une paix sociale qui va se construire, puisque de toute façon, on sait que se ranger deux par deux dans les couloirs pour se déplacer, c'est aussi un apprentissage qui prend du temps. Bon, on sait aussi que les collégiens l'ont rapidement oublié, mais bon, ça c'est autre chose. Sur les situations construites, il s'agit bien de toutes les situations qu'on va construire pour les mettre en atelier, notamment au sein de la classe, mais aussi hors de la classe, hein, en salle de motricité notamment. Alors, du coup, le fait que ces contextes et ces habillages soient variés et mis en relation, c'est vraiment aussi le rôle de l'enseignant, mais aussi de l'ATSEM, de relayer le fait que telle et telle situation font partie d'une même résolution de problème, d'un même type de problème. Du coup, pour faire évoluer les élèves, on a des variables qui vont nous permettre de complexifier les tâches, notamment, avec des domaines numériques 1 à 3, on dit souvent pour les petites sections, 1 à 5 chez les moyens, 1 à 10. Mais on voit bien aussi que du 1 à 30 ou au-delà de 30, on va voir par exemple sur la comparaison, ce sont tout à fait des collections qui peuvent être utilisables, à condition d'avoir des demandes qui soient raisonnables. Et donc, éventuellement, de ne pas aller jusqu'au dénombrement de très grandes quantités, puisque ça peut tout à fait ne servir à rien. Le type de matériel ou de représentation, donc évidemment, on démarre avec des objets de la classe, donc des objets réels qui existent dans le vécu de l'élève. Les doigts, puisque c'est quand même bien pratique et qu'on ne risque pas de les perdre. Des jetons, puis après tout un tas de matériel qui peut être emboîtable ou non, qui est déjà organisé ou à organiser, donc déplaçable ou non, puis passer à des choses qui sont moins concrètes, donc plus abstraites, des représentations analogiques, que ce soit des dessins, des schémas, ou des choses plus abstraites encore, des points, des alignes-points, des cases, pour arriver aux représentations conventionnelles que sont les mots-nombres pour l'oral et l'écriture chiffrée à l'écrit. Et on vient d'en parler donc avec des contextes de résolution de problèmes, mais aussi des contextes d'entraînement, puisque une fois qu'on a découvert et qu'on a résolu, il faut aussi savoir transférer les compétences qu'on vient de développer à d'autres situations. Un point aussi quand même qui est, alors avec les maternelles peut-être pas tant que ça à développer, mais quand même, l'écriture chiffrée est quand même l'écriture internationale. On a des alphabets différents, on a des langues différentes, mais la langue mathématique est internationale et je pense que c'est un point qu'on peut quand même développer en tout cas en cycle 2, cycle 3, mais dont on peut déjà parler avec les plus petits. Donc l'enseignant conçoit, c'est lui qui est garant de la mise en œuvre, de l'évolution, du projet d'apprentissage. Mais évidemment que, n'étant pas seul dans la classe, il y a tout à fait nécessité à ce que ce projet soit partagé, compris avec les ATSEM, les AVS, les parents aussi, les collègues intervenant dans la classe. Les choix sont des choix d'enseignants au démarrage, partagés, et puis utilisés après par les différents adultes et développés par ces adultes auprès des enfants.
Ce n'est pas un rôle facile, en fait, parce que à la fois, il faut qu'elle sache être en retrait sur certaines activités, être effectivement dans l'observation, voir comment fonctionne l'enseignant. Et puis, il faut qu'elle puisse prendre des initiatives aussi à d'autres moments, pas attendre que l'enseignante lui dise des choses ou l'enseignant lui dise des choses, parce que elle va être en interaction avec les élèves et voilà. Et ça, c'est l'expérience qui joue, mais c'est aussi au niveau de l'enseignant, quelle place on va lui laisser.
Donc là, toujours ma collègue Elisabeth qui me prête sa voix et qui fait acte de la difficulté du métier d'ATSEM, qui est à un moment d'être dans l'analyse de ce qui se passe du côté de l'enseignant pour pouvoir répéter des gestes, des paroles, aussi dans la prise d'initiative à des moments où les élèves sont en libre dans la classe ou bien à des moments où elle est avec eux dans d'autres endroits pour s'approprier ce qui a été fait. Mais vous voyez aussi qu'elle parle de l'ATSEM comme une observatrice au moment des rituels pour pouvoir repérer ce que éventuellement l'enseignante ne peut pas repérer, et notamment des difficultés d'élèves ou des gestes d'élèves. Du coup, puisque ma logique est une logique de matheuse qui parle de maths, des tâches mathématiques qui vont commencer par la comparaison. Donc, je ne vais pas le développer, mais si vous allez sur le site de la DSDEN, il y a des séquences avec des contextes, des habillages pardon, différents qui ont été proposés sur trop, pas assez, plus, moins. En fait, en travaillant avec les variables d'évolution de ces procédures, et notamment ici sur l'écart entre le nombre d'objets de chacune des collections. Du coup, quand on a un grand écart entre les collections, il est évident qu'on va pouvoir développer une procédure qui ne sera pas forcément numérique, qui ne va pas donc forcément prendre en compte les unités, mais qui va donner sens au concept de quantité. Et du coup, cette partie-là, les quantités vont être choisies par l'enseignante, puis aussi par l'ATSEM qui reprendrait ses activités après à d'autres moments. Cela veut dire qu'on va développer ça dans différents lieux, dans le mésoespace par exemple, dans la cour de récréation, montrer à des élèves qu'on va avoir dans certains endroits beaucoup d'élèves concentrés et dans d'autres endroits peu d'élèves, qu'on va avoir par exemple en automne beaucoup de feuilles dans la cour à cet endroit et très peu à un autre endroit, qu'on va par exemple après retourner dans le microespace de la classe en étant sur la table, en ayant par exemple beaucoup de crayons et pas beaucoup de crayons. Et c'est en multipliant ces situations qui vont être des situations contextualisées qu'on va aussi avec le langage faire des liens, que ce soit l'ATSEM, que ce soit l'enseignant, entre ces différentes situations en disant « tu vois les feuilles dans la cour, c'est comme l'autre jour les crayons sur la table ». Et puis à l'élève après de reprendre les mots « beaucoup, pas beaucoup ». Le fait de développer aussi ces situations dans différents contextes va permettre d'abstraire, évidemment, mais en ce qui concerne l'histoire de la classe, ça va aussi permettre, vous le voyez, de construire un album des « beaucoup, pas beaucoup », de manière à ce qu'on puisse, avec une accumulation de situations, généraliser et donc abstraire. Et donc là, vous voyez un affichage de classe qui aussi va être pris en photo après pour être mis dans l'album ou rester en affichage de classe. Alors, un des rôles de l'enseignant aussi, c'est d'utiliser du matériel qui va permettre de développer différentes procédures. Et vous voyez que là, du coup, on est sur l'arbre à cerises pour appareiller, pour comparer. Avec cet arbre à cerises, on a plusieurs possibilités d'activités. Vous voyez qu'on a en fait deux matériaux, des tiges qu'on peut mettre sur un arbre ou qu'on peut laisser en vrac, et des paniers qui, eux, du coup, ont des collections qui sont non déplaçables. Et donc, en fait, c'est le jeu sur le type de matériel, déplaçable, non déplaçable, que l'on peut égrener ou qu'il faut toucher du doigt, éventuellement dénombrer, qu'on va pouvoir réutiliser des procédures comme le beaucoup, pas beaucoup, puisqu'on voit bien qu'avec un grand écart, on n'aura pas besoin d'aller dénombrer, qu'on va aussi avoir un transfert sur les tiges, quand elles sont comme ça, verticales, un transfert sur la comparaison de longueur ou de hauteur, selon ce que diront les élèves, et que du coup, on ne va pas non plus tellement avoir besoin du 1 par 1, mais si on les enlève de l'arbre, on voit bien qu'éventuellement, on peut avoir du 1 par 1 ou du 2 par 2, qui vont permettre après de comparer sur deux tiges. On sait aussi qu'une autre manière de faire à un moment, ça va être d'avoir au début le matériel proche, les deux matériaux proches pour l'association, et puis qu'après on va à un éloignement, et qu'en fait l'éloignement va permettre aussi de développer une autre procédure dont on n'a pas besoin si les collections sont rapprochées, qui est par exemple de construire une collection témoin en disant voilà, ben là j'ai tant de perles, même si je ne sais pas totaliser, et je repars et je peux, avec ma collection témoin, faire la comparaison et associer le bon élément. Donc du coup, on a de nombreuses procédures numériques ou non numériques et des expressions langagières qui accompagnent toujours avec des gestes sur le beaucoup, pas beaucoup, sur ici la comparaison trop, pas assez, quand on n'est pas sur, sur la quantité exacte, plus que, moins que, et le fameux autant que qui est si difficile à mettre en place en maternelle. Donc je reprends estimation, mais aussi utilisation du subitizing, nous en reparlerons. Correspondance terme à terme ou groupe à groupe, on l'a dit. Comparaison des longueurs, construction d'une collection témoin, ou dénombrement et comparaison des nombres. Alors, autre contexte ici sur un jeu de bataille. Alors, cet extrait est issu de la brochure de l'IRES de Toulouse qui s'appelle « Autour du repérage des compétences dans des domaines mathématiques en cycle 2 et cycle 3 ». Il y a deux brochures, une numérique et une spatiale. Et donc ici, on est sur un très très court extrait de la première brochure sur le numérique. On est en grande section, en octobre, et en fait, on n'est pas tout à fait dans une situation classique, on n'est pas en classe. On est avec une formatrice de l'IRES qui essaie de filmer des élèves en train de faire des tâches de manière à montrer les difficultés, les réussites. Et donc là, on est sur un questionnement autour des procédures de l'élève et toujours du rôle de l'adulte. Donc, on est parti avec Alexis.
Tu connais le jeu de la bataille ? Non ? Alors, je vais tirer une carte pour toi et une carte pour moi. Voilà. Et gagne celui qui a le plus d'étoiles. Alors, qui est-ce qui gagne ? C'est toi ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce que il y a une étoile, deux étoiles, quatre étoiles, cinq étoiles, dix étoiles. Dix étoiles.
Alors, garde-la là. Je vais en remettre d'autres. Donc, c'est toi qui gagne.
Oups. Alors, du coup, sur les procédures de l'élève, si je démarre là-dessus, on voit en fait qu'il y a des procédures ou une procédure qui serait effective, mais pour l'instant, là-dessus, nous n'avons que des hypothèses parce qu'il faudrait un entretien d'explicitation qui n'a pas eu lieu. Et par contre, nous avons une procédure qui a été exprimée suite à la relance de l'enseignant. Et on voit bien que la procédure exprimée, c'est celle d'un recomptage, un par un, avec en plus une erreur sur la comptine. Et par contre, on voit bien, quand on regarde à la loupe, je suis d'accord, hein, mais on voit bien que ce n'est sans doute pas, et certainement pas, la procédure effective de l'élève, puisque, en fait, il choisit quasi immédiatement la carte où il y en a le plus. Donc, comme hypothèse, on peut se dire qu'il a estimé qu'à vue de nez, là, il y en a plus. Et ça, on ne peut pas lui en vouloir. C'est quand même très efficace. On voit que c'est beaucoup plus rapide que le redénombrement un par un. Il est possible aussi qu'il ait reconnu les constellations et qu'il sache que la constellation du 5 a plus perdu. On va repartir là-dessus momentanément. Que la constellation du 5 contienne plus d'étoiles, je crois, que celle du 2. On peut aussi se dire qu'il a vu 2 à l'intérieur du 5. Et là, c'est drôlement intéressant. Ça veut dire qu'il voit le 2, il voit l'autre 2 et voit qu'il y en a d'autres. Et donc, du coup, il y en a plus. En tout cas, ce ne sont pas parmi les hypothèses que je viens de vous donner, celles qui ont été exprimées par l'élève. Et donc, vous savez que les didacticiens, du coup, ont une autre hypothèse qui est qu'il y a un contrat didactique fort à l'école qui dit que la procédure experte, c'est celle qui fait qu'on utilise la comptine pour dire combien. Et on voit bien qu'ici, en fait, c'est pas du tout la plus efficace. Et c'est certainement, en fait, pas sa procédure première ni sa procédure effective. Alors, par contre, ce qu'on peut voir du côté du rôle de l'adulte, puisque je ne perds pas le fil non plus du rôle de l'adulte, c'est tout le travail d'anticipation pour préparer une tâche avec un enrôlement, puisqu'on est sur une tâche de bataille, qui, malheureusement, on le voit au début, ne fait pas partie de la culture de l'élève, puisqu'elle lui dit « tu as déjà joué à la bataille » et il dit « non ». Dommage. On voit aussi qu'il y a un travail sur les cartes. Ce ne sont pas des cartes classiques, des cartes à jouer, puisque vous savez que dans ces cas-là, sur les cartes, il y a des aiguilles sur les côtés supplémentaires qui font que l'élève papillonne sur la carte et ne se centre pas sur la quantité. Là, on a une centration sur la quantité. On a aussi ici un élève qui est en évaluation et donc on voit bien qu'il y a une relance en disant « mais comment tu as fait ?» Et puis, évidemment, bah, y a la consigne, peut-être que j'aurais dû commencer par ça, qui est « tu me montres là où il y a le plus ». Et donc on gagne celui qui a le plus. Ce qui veut dire qu'après, ce jeu de bataille, il peut vivre sa vie tranquillement dans la classe, avec des groupes encadrés par l'ATSEM ou entre élèves de manière complètement autonome. Mais vous voyez bien qu'il faut avoir cette culture du jeu qui, alors, sans être trop... Oui, on va dire que ça commence à se perdre un peu, les jeux de société dans les maisons. Donc, autre choix que je voulais vous montrer aussi, de cartes qui pourraient être utilisées avec des représentations diverses et variées, avec des collections organisées ou non, et qui permettraient donc à l'élève de diversifier la manière de reconnaître visuellement.
Si j'avais une nouvelle ATSEM, effectivement, je vais passer par une préparation qui me semble indispensable. Parce que quand on parle d'erreur, par exemple, il faut que les enfants puissent se tromper. Pour qu'on n'attende pas des enfants quelque chose de réussi tout de suite. Il faut qu'ils puissent tâtonner, il faut qu'ils puissent trouver des stratégies. Et ça, c'est souvent compliqué. Souvent, les ATSEM ont envie qu'ils réussissent. Et du coup, elles ne vont peut-être pas les laisser chercher la solution.
Alors là, c'était petit exemple supplémentaire sur le travail sur l'erreur. J'ai fait un extrait. Il est clair que la collègue pense bien que d'autres adultes, que les ATSEM peuvent avoir, je parle notamment des néos, envie un peu de faire en sorte que les élèves soient quasi systématiquement en réussite. Or, à faire à la place d'eux, on empêche l'élève de construire. Donc vous voyez bien que là, l'erreur qui était faite par l'élève, on serait en situation de classe. Bien sûr que l'ATSEM ou l'enseignant reprendrait la comptine, éventuellement irait avec l'élève voir un affichage de référence pour essayer de remettre les mots dans l'ordre. Autre contexte qui peut être une situation ritualisée, qui peut être aussi encadrée par l'ATSEM, c'est en fait... Là, on est il y a à peu près un mois, dans une classe de moyens, et on est sur la construction de deux tours, celle des élèves qui rentrent manger à la maison et celle des élèves qui restent à l'école. Et en tout cas, dans cette classe-là, ce qui n'est pas toujours le cas, on voit que par comparaison directe, sans aller au dénombrement, on peut dire laquelle des deux collections est la plus importante. Et on voit bien aussi que là, du coup, le nombre n'est pas nécessaire à cette comparaison. Il est possible, mais pas forcément nécessaire. Donc, du coup, si j'essaie de faire un bref et rapide résumé, le rôle des adultes, c'est effectivement de choisir un contexte, et dans ce contexte, un habillage, du matériel, et les variables de progression, éloignement, etc. Construire le lien entre les différentes situations, par exemple, sur l'appel de la cantine, dire « tu te vois », c'est comme dans l'arbre à cerises, quand on a les deux cerises qui sont pendues à l'arbre, associé avec le langage « beaucoup, pas beaucoup, plus que, moins que, autant que », et une gestuelle du groupement, Par exemple, sur les cartes à jouer, montrer que tu vois, là, il y a deux. Là, on voit encore les deux et il y en a d'autres, donc il y en a plus. Observer aussi, bien sûr, l'élève, son langage, ses gestes, les procédures qu'il utilise et le transfert qu'il fait des compétences d'une situation à l'autre. Et ici, estimation, comparaison directe, indirecte, dénombrement et comparaison des nombres, par exemple. Alors, on passe, puisque je ne dois pas perdre de temps, à constituer une collection « Dire combien ». Et donc, deux raisons sur la tâche « Donne-moi », puisque la recherche de Sarnecka et Carré en 2008 fait apparaître que l'usage de la tâche « Donne-moi » pour évaluer la compréhension des premiers nombres chez les enfants est plus fiable. Et donc, demander à des élèves dans des situations fonctionnelles de la classe d'aller me chercher « Donne-moi un stylo, donne-moi une feuille, donne-moi une règle, donne-moi un cube », ça va permettre de vérifier si l'élève a bien construit le 1, puis on passe au 2, puis on passe au 3, et cette tâche-là peut servir d'évaluation. La deuxième raison qui fait que on va aussi privilégier cette tâche « Donne-moi », c'est qu'en fait, quand nous, les adultes, on énonce « Donne-moi 5 », le 5 est déjà dans le contexte cardinal. Et donc, dès le démarrage, ce 5, on sait que c'est une quantité. Alors, un exemple à nouveau de classe sur cette tâche « Donne-moi ».
Donne-moi un jeton, s'il te plaît. Il m'en a bien donné un. D'accord, très bien. Donne-moi deux jetons. Deux, très bien. Deux jetons. Donnez-moi. C'est bien deux ? Super, très bien.
Je vous prie d'excuser le son qui en fait se fait en visite de classe, donc c'est pas toujours simple. Alors, si on regarde rapidement, on voit bien que du côté motivation et du côté régulation, on a bien des super, très bien. Et donc, on voit bien que là, il y a une émulation qui est tenue par l'enseignante. On voit bien aussi que même si la tâche est individuelle, la validation est renvoyée au groupe avant l'évaluation par l'enseignante. Et donc, c'est bien, est-ce que j'ai bien deux ? Oui, c'est bien deux. Et donc, en fait, elle ne valide qu'après avoir demandé au groupe. Alors, avec insistance, peut-être, on dira, sans doute, mais en même temps, c'est son métier, d'insister auprès des élèves pour que la validation vienne des élèves et non pas systématiquement de l'enseignante, ou en tout cas même le moins possible de l'enseignante. On voit aussi qu'elle a fait le choix de le mettre en atelier, alors que, je vous en ai parlé tout à l'heure, on peut très bien avoir cette activité sur des moments fonctionnels. Elle le fait en début d'atelier, puisque je vous montrerai, pas d'extrait, ce serait trop long, mais des images de la suite de l'atelier pour développer des bons de commande. Elle donne la consigne et puis elle traite l'erreur. Mais on voit aussi qu'avant de traiter l'erreur, dans le deuxième exemple, elle étaye avec des mots et elle étaye avec des doigts. Et en plus, elle est accompagnée par une élève qui est quand même assez exceptionnelle à côté, qui ne dit mot, mais qui ne consent pas toujours. Hein? Et on voit bien que la petite fille à côté a des deux, comme ça ou comme ça, selon les moments. Et on voit bien qu'en fait, elle est quand même motrice dans cette activité-là. Et sur le dernier moment où la petite fille se trompe sur les trois jetons, on voit qu'elle montre qu'elle prend en charge, elle, en utilisant une des élèves, le fait que l'autre élève montre 3, qu'elle en montre 3, qu'elle utilise la correspondance terme à terme. Et on voit bien en fait que la petite fille d'à côté n'a pas le mot, mais ce n'est pas grave du tout. On voit bien qu'elle a la quantité qui correspond. Donc le mot viendra, le plus tôt possible bien sûr, mais le mot viendra. En tout cas, la compréhension est là et on le voit bien dans son geste-là. Voilà, donc elle est dans l'explicitation d'une procédure possible qui est constitution d'une collection témoin, en tout cas pour comparer, pour voir. Mais on voit bien aussi que chez les élèves, en tout cas, il y en a qui sont capables d'utiliser le subitizing, ce qu'on ne voyait pas chez Alexis, on ne pouvait pas savoir s'il l'utilisait, de voir directement 2, directement 3. Alors, si on est sur le dénombrement, du coup, 3 conditions pour dénombrer. Il faut créer mentalement les unités. Et il y a une recherche de Shipley et Jefferson en 1990 qui montre que dans les élèves de 2 à 5 ans, il y a énormément d'élèves qui disent qu'il y en a 6. Alors que si on est sur des fourchettes, on pourrait imaginer qu'il y en ait 5. Mais on sait très bien qu'on a ce même phénomène, par exemple, quand les natures de choses à compter sont différentes. Si par exemple on compte des éléphants et des mouches, les mouches pour certains élèves ne sont pas des animaux, hein, c'est des insectes, donc c'est des bêtes à part, et donc ils ne les mettront pas dans la même collection que les autres, comme on va avoir la même difficulté avec les cycles 2 quand on a des cubes empilés avec certains qu'on ne voit pas, les élèves ne les compteront pas parce qu'ils n'y pensent pas, parce que la lévitation transcendantale de la brique est considérée comme normale. En tout cas, on voit bien que là, l'unité n'est pas construite, puisque, en fait, c'est que l'unité visible qui est dénombrée, alors qu'il faut avoir construit qu'il y a des unités invisibles à dénombrer. Mais je vous rassure, on a la même difficulté avec les fractions en cycle 3. Entre 5 huitièmes et 5 quarts, les élèves, leur cœur balance. Mais si on a bien construit l'unité, en principe, on a la bonne solution. Donc, du coup, créer l'unité mentalement, énumérer. Et donc, l'énumération, si on a, par exemple, dans ma famille, il y a ma mère, mon père, ma mamie, mon papé et moi, le fait qu'on ait cette main complète va faire aussi en sorte qu'on n'est pas obligé de reprendre la comptine à partir de 1, puisque la main est un objet socialement reconnu, qui fait que les élèves, avec une culture générale soutenue, doivent savoir qu'une main contient 5 doigts. Alors, j'allais dire presque, quelle que soit la main, en tout cas, quelle que soit la main non accidentée. Et donc, évidemment, vous voyez bien que après, on va pouvoir dire qu'il y en a 5, et c'est à ce moment-là qu'on totalise. Mais vous voyez bien aussi que au moment de l'énumération, si on est, par exemple, sur des collections où on ne va pas utiliser des mots, mon papé, ma mémé, moi, ma sœur, mon frère, on va pouvoir, si on a du matériel, constituer une sous-collection au fur et à mesure. Et en fait, en parlant d'une certaine manière, la sous-collection qui petit à petit ajoute une unité à chaque fois, on met le mot-nombre correspondant après l'ajout de l'unité et après une monstration gestuelle qui fait bien comprendre que ce mot-nombre correspond non pas à 1, mais à la quantité complète. Et donc, quand même, je reviens sur celle-ci. Dans la tâche donne-moi, ces 3 conditions, elles sont présentes à chaque moment de l'exécution de la tâche. On va avoir le nombre qui totalise dès le démarrage dans la consigne. Donne-moi 5. Et donc, ce 5 est bien la mesure de la quantité attendue. On va avoir, dès le moment où l'élève va attraper un deuxième objet, le fait que, quand il va prendre son deuxième objet, il a constitué une deuxième sous-collection avec un et encore un, donc avec 2 objets. Et donc, petit à petit, il accompagne son geste d'un oral sans doute tout à fait intérieur, mais qui fait qu'à chaque fois, le mot nombre est un mot nombre cardinal ici. Alors, des procédures, rapidement, parce que je pense que je m'égare. Le subitizing juste à 3, on est sur les travaux de Jean-Paul Fischer, sa thèse en 91 et l'article de 92. La reconnaissance de configuration connue, ops. Le 3 du dé, le 3 des doigts, mais bien sûr que l'intérêt est d'en développer d'autres, comme vous l'avez vu dans le film tout à l'heure. Le recours à une collection témoin, qui est à nouveau un usage des doigts aussi. L'usage du comptage dénombrement, je viens de vous en parler, et de décomposition-recomposition. Comme par exemple tout à l'heure sur la bataille, on aurait pu avoir, regarde dans cette carte, j'ai 2, et là j'ai 2 et plus, ou j'ai 2 et encore 3, donc j'ai plus de 2. Donc selon là où en est l'élève, on décompose et on recompose, mais on voit bien que là, 2 et plus, ça suffisait. Alors, je vous parlais de l'atelier de la jeune collègue de tout à l'heure. Sa tâche du donne-moi est prolongée par ce jeu de bons de commande. Et donc, vous voyez aussi que le rôle de l'enseignant ici est d'avoir prévu une progression dans l'usage, enfin dans la représentation des bons de commande, où on est au début, ou en tout cas pour certains élèves, peut-être pas pour tous, avec des cartes sur lesquelles il suffit de superposer pour réussir. Et là, on voit bien qu'on est sur du 1 pour 1, correspondance terme à terme, qu'on n'est pas forcément au nombre. On voit ici deux représentations analogiques qui ne sont pas forcément conventionnelles. Vous voyez ici que sur cette photo, on a le 3 du dé, mais ici, on a un autre 3. Des représentations du 1, du 2, du 3 avec les doigts qui ne sont pas non plus forcément conventionnelles. Et la plus abstraite des écritures, qui est l'écriture chiffrée, puisque là, on n'a absolument pas possibilité d'avoir la correspondance terme à terme. Donc, ici, pareil, faute de temps, je ne vais pas vous montrer l'extrait, mais on voit ici l'enseignante qui, justement, sur le 3 en écriture chiffrée, emmène l'élève jusqu'à l'affichage de référence pour reprendre le 3 avec elle et revenir après à la place de l'atelier pour utiliser cet affichage de référence dans la situation du jeu. Alors, du coup, je suis allée vous récupérer quelques écrits de référence. Celui-ci qui était dans la classe de la jeune PES que je viens de vous montrer. Et donc, on a ici une structure intéressante en escalier où on a la file numérique, même si on en reparlera peut-être, ce n'est pas forcément ce que je vais trouver le plus intéressant, en tout cas en petite section. Chez les moyens, on peut tout à fait. On peut aussi démarrer chez les petits, mais pas tout de suite. Vous voyez que là, on y est presque aussi, mais qu'on pourrait avoir des affichages qui soient dans des lieux un peu éloignés et pas forcément dans l'ordre. Et en tout cas, on voit ici qu'on a deux lectures possibles, une lecture en avançant, comme sur la file, mais évidemment qu'on a une illustration qui montre la quantité. Et on a aussi le fait, même si ces deux-là ne sont pas bleus, que la quantité suivante est utilisée en ajoutant 1 à la quantité précédente. Et on a donc l'écriture chiffrée qui suit. Et donc on a bien ici le lien dont je vous parlais au début de l'exposé sur le fait qu'on lit l'écriture, la comptine, avec la quantité. Donc ici, 3 affichages avec, on va dire, 4 représentations, dont une avec une collection matérielle. Alors, petit audio, je crois, aussi.
Moi, je vois qu'elles utilisent plus des termes qui vont intervenir dans des activités mathématiques quand on est autour d'un jeu de société. Ça marche bien. Du coup, on peut voir effectivement, mais t'es sûr, comment tu fais pour savoir si c'est le bon nombre, si on joue avec un dé? Là, tu t'es trompé, regarde, on fait référence à l'affichage. Ça, enfin, je sais que mon ADSEM, elle va faire ce genre de choses.
Voilà, et donc, la collègue vous dit, mon ADSEM, elle fait ce genre de choses. Quand il y a une erreur avec un élève, elle accompagne l'élève jusqu'à l'affichage de référence. Encore faut-il qu'elle l'ait vu et qu'on lui ait expliqué, qu'elle en soit pleinement consciente. Rapidement, j'essaie d'avancer très très vite. 2 activités ritualisées sur le sujet, sur le site de la DSDEN aussi, 95, donc je vais vite. Le Lucky Luke, avec ou sans l'habillage Lucky Luke, puisque nous les adultes savons qui est Lucky Luke, les élèves de maternelle, beaucoup moins. Et donc le montre 3, Un autre 3 pour la relance de l'élève, de l'enseignant, et 3 avec deux mains, de manière à aller jusqu'à la décomposition. Et 2 doigts et 1 doigt, ça fait 3. Ou 2 et 1, ça fait 3. Et là, on est sur l'abstrait. Autre activité ritualisée, cette fois de dénombrement, le combien, avec un choix d'enseignant, notamment de représentation et de structuration spatiale pour justement favoriser ça. Donc 2 et 1, clairement, 2 et 2, 3 et 1, et donc on va jusqu'au 4 dans les deux situations, avec du coup la possibilité aussi de comparer ces deux premières cartes avec quelque chose de simple chez les maters, même s'ils ne sont pas en moyenne section, de dire j'en ai deux et j'en ai deux, puis là j'en ai deux et un, et en fait il me suffit de comparer deux et un pour savoir, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à quatre et trois. Mais je peux, quand je sais. Alors à l'accueil en jeu libre, donc je vais vite, une chenille avec des indications sur les anneaux, et les élèves doivent aller chercher des pattes qui correspondent à la quantité, et on peut faire évoluer les variables en mettant des pattes où il n'y a rien, si on demande à ce moment-là que la somme des deux pattes corresponde à la quantité qui est sur l'anneau. Alors, rapidement aussi, là, on n'est pas du tout en situation à l'intérieur de la classe, on est en salle de motricité, on découpe le plan, on donne aux élèves, et l'ATSEM et l'enseignante demandent aux élèves d'aller chercher une planche, dans l'autre groupe, d'aller chercher deux briques, et puis, en essayant de suivre le plan pour la structuration dans l'espace, de reconstituer les quatre ateliers tels qu'ils sont positionnés ici, évidemment, avec étayage, nombreux et variés. Voilà. Autre moment aussi, retour en classe, photographie de la salle de motricité, moment de langage sur le matériel, très bien, la structuration spatiale, parfait, mais aussi sur le nombre d'œufs. On rentre dans le parcours en suivant la flèche et on voit deux briques, un cerceau au milieu. On saute dans un cerceau, puis encore dans un cerceau. On va sur un escabeau, il y a deux escaliers, un qui monte et qui descend, etc., etc. Rôle des adultes, le contexte, l'habillage. Faire le lien entre les situations, c'est comme associer le nom de nombre et les décompositions avec un geste de groupement décomposition, et puis toujours observer langage, geste, subitizing, dénombrement pour les procédures. Je vais très vite. Composer, décomposer. Voilà, c'est le jeu. Je vous l'ai dit, préparation vraiment, vraiment nécessaire au calcul mental, puisque quand vous allez calculer, admettons 7 plus 5, vous allez commencer par exemple à rechercher le complément à la dizaine, complété. Quand vous l'avez trouvé, vous allez décomposer le 5 à l'aide de ce complément, on décompose. Puis vous allez recomposer le 7 et 3, puisque c'est ce que vous cherchiez pour faire 10. Et donc vous voyez bien que ces trois gestes, que sont composés, décomposés, complétés, sont absolument nécessaires au calcul. Et donc, plus tôt on les travaillera à l'école maternelle, plus tôt ils seront accessibles aux élèves. Rapidement encore, les absents pour décomposer. Vous voyez bien qu'au début, là, petite section, on ne décompose pas. Chaque élève est représenté par un individu. Donc là, on construit le 1, l'unité, et on a 4 absents. Ici, chez les moyens, petits moyens. Chez les petits moyens, ici, on a le groupe des petits en rouge, le groupe des moyens en vert. Et aujourd'hui, il y a 3 petits et 1 moyen. 3 et 1, ça fait 4. Et donc, on utilise l'appel des absents pour décomposer. Les présents, organisation des grandes collections en petites collections. Je suis hyper frustrée si je ne peux pas vous le montrer, mais je passe et on reviendra dessus s'il faut. On est sur un appel où on a... deux secondes, vous pensez que je peux? Vous êtes sûr? Allez, vous êtes trop bon.
Ok, on est bien installés. Alors, on commence par faire quoi? Sad. Non, tu me le dis.
On commence par la ligne en haut.
Donc, structuration de l'espace.
Les étiquettes. Tu y vas? Oui. Vas-y. C'est la première ligne. On écoute bien, on parle fort.
Un, deux.
Oui.
Donc là, vous voyez que lui, il n'est plus sur le 1 et encore 1. Il est directement sur le comptage numérique.
Le chiffre 2.
Il a pris le chiffre 2.
Et les carrés.
Et les deux petits carrés. Très bien. Allez, on continue.
Oui.
Mathilda.
1 et encore 1, ça fait 2. Et encore 1, ça fait 3. Et encore 1, ça fait 4. Et encore 1, ça fait 5.
D'accord. Alors, tiens. qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui?
Le chiffre.
Le chiffre 5.
Alors, vous voyez que du coup, là, on est chez des moyens. On a donc une organisation spatiale des présents cette fois. Et c'est une organisation par rangée de 5, puisque quand même, cette idée culturelle qu'on a 5 doigts sur une main quand il n'y a pas eu de souci, c'est important, puisque c'est une vraie facilité de dire il y en a comme ça, donc il y en a 5. Ça évite de travailler avec du 1, 2, 3, 4, 5, de repartir sur du comptage, numérotage. Une toute petite partie pour quand même, à un moment, la collègue veut aller jusqu'à la totalisation. Alors, je ne vous ai pas fait la suite, mais on peut imaginer deux hypothèses. Soit l'élève suivant dit bah, il y en a autant qu'eux, puisque c'est aligné, et il va sortir le 5 directement. Soit, en fait, le contrat est que chaque élève récompte de 1 en 1. Alors, prise en charge de la maîtresse. Loupé. Donc la maîtresse dit, là vous avez compté 2 et 5, 2 et 5 ça fait 7, je vous le dis. Là vous avez compté 5 comme une main et encore 5, combien ça fait? Et là un des élèves, Ibrahim, dit 5 et 5 ça fait 10. Et la maîtresse reprend la parole pour dire, je vous le dis à nouveau, vous avez compté 7, vous avez compté 10. Et je vous annonce que 7 et 10 de plus. Alors, je crois qu'elle démarre par 10, pardon. 10 et 7 de plus, ça fait 17. Et donc, sur la totalisation, qui n'est pas dans la ZPD de l'élève, eh ben, c'est la maîtresse qui reprend la main pour aller jusqu'au nombre 2. Activité ritualisée, greli-grelot pour composer. Combien j'en ai? Donc, on montre la quantité, on retourne. Construction de l'image mentale par la vision d'autrui. Imagine ce que je vois. Et puis, on les met dans le chapeau, greli-grelot, combien j'en ai dans mon chapeau. Autre activité ritualisée, le jeu du gobelet pour travailler le complément. On annonce les quatre oursons, on vérifie les quatre oursons avec eux. On cache et on ne leur demande pas de fermer les yeux, sinon de toute façon ça ne fonctionne jamais. Et puis, une fois qu'on a ça, combien est-ce qu'on envoie? Les élèves disent deux. Combien est-ce qu'ils sont cachés? Évidemment qu'ils retrouvent deux. Et ça n'est pas de la magie. Parce que des fois, on a ce côté un peu. Oh, deux! Ben non, non, on a deux parce que, oui, on le savait, deux et deux, ça fait quatre. Autre contexte pour le complément à cinq avec le Haligali. Et si on veut faire, on va dire, des mathématiques avec les élèves, c'est vraiment dans l'anticipation qu'on va pouvoir travailler. C'est-à-dire que si l'élève attend que la dernière carte soit posée pour compter toutes les collections, il s'en sortira jamais. Et donc, on va faire un arrêt sur image dans ce jeu avec les élèves en leur disant, ben, pour gagner, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que j'ai 5. Donc, combien j'ai déjà de prunes? 4. Il m'en manque combien? 1. Alors, j'attends une prune. Combien est-ce qu'il y a de bananes? 3. Donc, j'en attends 2, etc., etc., de manière à ce que tous les élèves comprennent qu'il y a une procédure gagnante. C'est un jeu où on gagne. Autre travail de l'enseignant, avoir du matériel qui soit avec auto-validation possible par les élèves. Donc, vous voyez ici le derrière des cartes, pardon, qui permet aux élèves, s'ils travaillent dans un groupe d'autonomie, de valider eux-mêmes la réponse. Et puis, le jeu du dortoir avec trois phases. Donc, Dominique Valentin, mais aussi dans les cartes à calculer de Brissio, on est sur une première phase où on découvre le contexte. Des ours sont dans des dortoirs ou dans un gymnase. Puis ici, certains sont cachés, mais on a, pour mémoriser la quantité manquante, pour travailler le sens du complément, une mémoire du manque par les lits. Et puis ici, plus de support pour ceux qui manquent, et donc on doit mentaliser. Hein, donc ces étapes à suivre pour la conceptualisation. J'ai quasi fini le rôle des adultes, du coup, dans ces trois tâches, composer, décomposer et compléter. Et évidemment, toujours à chaque fois, choisir un contexte, construire le lien. Ici, le langage de la décomposition 2 et 1, ça fait 3. Ou 3, c'est 2 et 1. Ou si j'en ai déjà 2, pour faire 3, il m'en manque. Et puis, donc, on est sur les trois tâches complétées, décomposées, recomposées. Juste le boulier, je crois que je finirai là-dessus. Ici, celui du CNAM que je vous ai pris en photo hier, 19e siècle, boulier russe. Et vous voyez ici le quatrième. Le cinquième et le sixième qui sont de couleur, le boulier bicolore ici. et un appui pour dénombrer les présents en grande section, un appui pour le 10. Le matériel est déjà organisé par 10 et il rend lisible la numération décimale. S'il vous plaît, encore un tout petit.
Bonjour.
Ça vaut le coup.
Qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais des Kinder, s'il vous plaît. Deux, ça fait
deux. Tiens.
Bip.
Non, le code barre, je vais te montrer, Mylène. Voilà.
C'est bon, j'ai fait.
Un point encore.
C'est deux. T'as oublié de mettre le deux.
Ah.
Non, deux.
Alors que je voudrais du Kiri.
Kiri,
il est là.
Non, il est là.
Pip, 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 pip.
Non, il est là.
Pip.
Encore deux. Un, deux, trois, quatre. Que cinq.
Et après, des céréales. Non. Et ça sera tout.
Deux. Attends, deux euros.
Cinq. Cinq.
Non, faut quelque chose de un.
Alors, vous voyez que du coup, s'il avait eu en plus son boulier 5 et 5, là, c'était fini. Le 1 apparaissait tout de suite et il voyait. Donc là, vous voyez l'usage de ce boulier sur la situation du coin marchand. Là, on est dans une REP et on est en AP, hein, pour vous indiquer un peu où ça se place. Du coup, si je fais mon bilan, le concept de nombre se caractérise, d'après la théorie des champs conceptuels de Vergniaud, par l'ensemble des problèmes qui peuvent être traités en utilisant le concept. Les obstacles que le concept permet de dépasser, les procédures que ce concept permet de développer, un langage avec des signes, des syntaxes du vocabulaire, des images, des actions mentales, des définitions, des propriétés. Et donc, rapidement, hop, 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 mais vous l'aurez, promis, vous l'aurez. Le site de la DESDEN 95, celui de l'IFE, puisque les collègues ont été filmés, j'ai utilisé des bouts, la mallette maternelle de la copie LM, sur laquelle je passe, c'est une carte mentale. Et en conclusion, puisque je ne vais pas faire sauter la pause, pour la construction du nombre, quatre principes. Aspect cardinal, parler le nombre des représentations mobiles, des tâches clés, un jeu de variables. Les choix de mise en œuvre, d'organisation, de progression sont du ressort de l'enseignante, mais partagés avec la TSEM.
Un partage du projet pédagogique. Ah bah oui, c'est essentiel parce que on ne peut pas être toujours dans l'implicite, même quand on se connaît, c'est plus facile. Mais et puis après, on ne peut pas attendre ou reprocher des choses aux gens si on ne leur a pas dit explicitement et si on ne leur a pas expliqué pour savoir où est-ce qu'on va.
Ensemble.
Parce qu'on travaille ensemble. Oui. C'est un vrai partenariat dans la classe.
Voilà, ça c'est la conclusion.